Salut à tous, Jérémy Royot pour Scepticisme Scientifique et aujourd'hui je suis avec Jean-Louis Kekalec. Salut!
Salut.
Voilà, donc je propose peut-être que tu te présentes un petit peu pour les auditeurs.
D'accord. Alors, je suis professionnellement directeur de recherche au CNRS, Centre national de la recherche scientifique. Je suis dans un laboratoire qui s'appelle l'IMAF, c'est l'Institut des mondes africains. Et mes spécialités, disons que c'est premièrement les arts préhistoriques. En particulier donc de l'Afrique et plus particulièrement du Sahara. C'est une chose sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, beaucoup publié. Et puis, deuxième chose, c'est la mythologie en général. Ça n'a pas l'air très connecté comme ça peut paraître un peu bizarre, mais simplement, il y a une connexion qui, pour moi, est évidente, c'est que les images rupestres et les images préhistoriques, elles étaient manifestement lié à des paroles, à des discours et probablement à des mythes. Et une des choses qui m'intéresse, c'est de retrouver quels sont les mythes qui étaient associés à ces images et aussi quels sont les mythes actuels, contemporains, qui leur sont maintenant associés par le public ou les scientifiques aussi. Voilà. C'est mes deux
Okay.
grands domaines de recherche.
Super. Et donc, on s'est rencontrés sur le groupe Zététique.
Oui.
Et donc, je te posais un peu la question traditionnelle, c'est comment est-ce que tu as connu le scepticisme?
Alors, ça fait longtemps que je farfouine sur Internet, disons, voilà, à la recherche de tout ce qui concerne ce qu'on appelle maintenant zététique, quoi. Depuis, j'ai suivi dès le début les sites et publications de Henri Brock et tout ça, quoi. Donc, ça fait longtemps que je cherche. Et du coup, voilà, de temps en temps, je retape les mots-clés. Et sur Facebook, j'ai eu la surprise de voir qu'il y avait, ce mot-clé fonctionnait. Et du coup, je me suis inscrit au groupe. Voilà. C'était une bonne surprise.
Super. Maintenant qu'on va pouvoir rentrer un peu dans le vif du sujet. Je sais que tu as prévu qu'on aborde plusieurs points, donc je te laisse peut-être la parole pour lancer ça.
Moi, je pensais, après la petite discussion qu'on a eue, que peut-être ce serait bon de parler de mythologie en général, hein. C'est-à-dire que en quoi ça peut nous concerner aujourd'hui. Alors, évidemment, je vais pas parler de la mythologie grecque. Souvent, quand on prononce simplement ce mot, mythologie, on pense à la mythologie grecque ou peut-être égyptienne, des choses comme ça. Mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Et déjà, il y a deux acceptions parce que la mythologie, c'est à la fois une matière et c'est à la fois la science qui l'étudie. Je connais pas d'autres, d'ailleurs, je connais pas d'autres sciences dans ce cas-là parce que généralement les mots en logie, comme ça, donc ça vient du, la deuxième partie vient du grec logos, un discours, disons, rationnel. Et si c'est géologie, ça va être un discours rationnel sur la première partie du mot, c'est géo, donc j'ai la terre, donc ça va être la géologie, discours sur la terre. Psychologie, ça va être un discours sur l'esprit, etc., etc. Et mythologie, c'est très curieux parce que en fait, mythos, qui a donné la première partie, qui a donné mythe en français, c'est aussi un discours. Donc là, on a une espèce de chose bizarre qui va être un discours sur un discours. Et en même temps, quand on dit mythologie, quand on parle de la mythologie, on pense à toutes les histoires grecques, par exemple, avec Zeus, toutes ces histoires de coucherie, etc., de bataille, etc., de trucs très bizarres. Et donc, c'est une matière. Et le mythologue, celui qui fait de la mythologie, c'est celui qui étudie cette matière. Donc la mythologie étudie la mythologie. Une situation qui est un petit peu curieuse comme ça, mais qui peut-être c'est significatif de pas mal de confusion à ce propos-là. Voilà, donc c'est à l'idée que j'avais de parler de ce genre de choses et puis ensuite de se laisser un petit peu aller peut-être.
Super. Ok. Oui, donc par rapport à ça, je sais que tu m'avais dit que c'était important pour commencer de distinguer bien entre les mythes et les croyances, notamment.
Oui, c'est ça, parce que surtout en ce moment, je pense que c'est important, dans la mesure où le mythologue, alors je reprends mon histoire de mythologie, de mythologue et de science mythologique pour la distinguer de la matière mythologique, celui qui pratique la science mythologique, qui fait de la mythologie comme science, il s'abstient de prendre parti sur la véracité ou la fausseté de ce qu'il étudie. Pour lui, tout ça, c'est des textes, hein. Donc des textes qui peuvent être écrits, ou des textes qui peuvent être oraux. Alors évidemment, dans le cas des Grecs anciens, c'est des textes écrits, on n'a aucun témoignage oral. Bon, mais Lévi-Strauss, lui, s'est entièrement consacré, a complètement négligé, presque complètement négligé les textes écrits pour se consacrer aux textes oraux, des textes collectés, notés par des voyageurs, des enquêteurs, des ethnologues, etc. Donc de toute façon, il s'agit toujours de textes. Alors ces textes racontent des choses, évidemment, et la démarche scientifique, la base de la démarche scientifique du mythologue à ce moment-là, c'est de dire, bon, peu importe la véracité ou la fausseté de ce qui est raconté, je vais étudier simplement les textes pour ce qu'ils sont, à savoir les textes. Et ça, ça me semble très intéressant, à élargir comme façon de voir, alors du coup d'un point de vue disons zététique, puisque quand on est dans un monde où on va parler de croyances, on a plusieurs personnes ou deux personnes qui discutent et on va parler d'une croyance n'importe laquelle, les enlèvements de personnes par des extraterrestres venus en soucoupe volante. Bon, donc imaginons qu'on ait deux personnes, une personne qui croit dur comme fer que effectivement régulièrement il y a des soucoupes qui arrivent et qui capturent des gens, qui les emmènent et puis qui les ramènent. Bon, voilà. On a des tas de témoignages, il y a des livres, il y a des bibliothèques entières là-dessus, bon, etc. Et évidemment, il y a des gens qui n'y croient pas du tout. Et qui considèrent que c'est complètement idiot, que ça vaut à peine la peine d'y prêter attention, tellement ça leur paraît stupide à la limite. Bon. Et en tout cas impossible. Bon. Alors imaginons qu'on ait ces deux personnes qui discutent. Bon, évidemment, ils ne sont pas du tout d'accord. Et la discussion peut durer très 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 longtemps. À l'exemple de certaines discussions d'ailleurs sur Facebook ou sur les sites qui abordent ce genre de sujet. Et très généralement, ce qu'on constate, c'est que bah, après une très longue discussion qui peut se passer très bien, mais qui peut aussi finir par être un petit peu violente. Donc si on boit des coups en même temps et que voilà que ça se passe bien sympathique, c'est très bien, on peut y passer la nuit blanche. Mais à l'aube, celui qui croyait que effectivement des gens se font enlever par des aliens qui viennent en soucoupe, va toujours continuer à le croire. Et l'autre, il va toujours penser que c'est quand même un petit peu bizarre de croire des choses pareilles au minimum et que peut-être même c'est complètement idiot. Voilà. Et en fait, c'est rarissime, ça n'arrive pratiquement jamais, que l'un convainque l'autre. Ouais. Et donc, moi, je me dis que, alors, il y a des gens qui ont publié sur ces questions-là, parce que la raison pour laquelle ça ne peut pas marcher, enfin, une des raisons pour laquelle ça ne peut pas marcher, c'est que ce que l'un appelle chez l'autre croyance, eh ben, chez l'autre, c'est une vérité. Et donc, c'est impossible de se comprendre. Ce que l'incroyant appelle croyance, pour le croyant, ça n'est pas une croyance, c'est la vérité. Et à ce moment-là, ça devient pratiquement impossible de discuter de manière efficace. Enfin, surtout si le but c'est de convaincre l'autre que sa croyance n'est pas une vérité. Voilà. Ouais. Et en général, ben, ça marche pas. Ouais. Et ça, c'est on est en pleine mythologie. C'est-à-dire que on ne peut pas en sortir. C'est-à-dire, la discussion c'est pas une question de durée de discussion, c'est pas une question de validité des arguments, voilà, parce que on a des tas de sites maintenant qui recensent les arguments, les biais d'argumentation, tout ça, les biais cognitifs et tout. Mais il n'empêche qu'il y a toujours des gens. Moi, je me suis intéressé particulièrement, comme je suis aussi archéologue, à l'archéologie que j'ai appelée archéologie romantique, c'est-à-dire toutes ces histoires qui interprètent, par exemple, les peintures rupestres comme des œuvres d'extraterrestres qui seraient venues sur Terre dans une très haute antiquité pour instruire l'humanité qui sinon serait restée à un état extrêmement primitif et pour donc leur donner les premières petites connaissances qui ont permis que l'humanité se développe. Bon, il y a des tas d'arguments excellentissimes pour prouver que c'est faux. Et c'est des preuves, là, vraiment. Et il n'empêche qu'il suffit de faire un petit tour sur Internet ou même dans des librairies pour s'apercevoir que toujours, ces choses reviennent. Ou les délires sur les pyramides, toutes ces choses-là, toujours reviennent, malgré les excellentes démonstrations, qui, en plus, maintenant, sont faites de manière assez calme, voilà, plutôt gentille, bienveillante, disons, c'est pas agressif, voilà, c'est sur un plan vraiment rationnel. Et ben, ça marche pas. On en reste toujours au même point. Et on voit ça, notamment aussi maintenant, pour moi, c'est du même niveau avec les religions. Et les disons, pour être gentil, les querelles de religion, c'est-à-dire les des gens qui, si on remplace soucoupe volante ou extraterrestre qui viennent capturer des humains par Dieu, on a la même le même genre de débat, le même genre de discussion. Ou si on remplace les termes par d'autres termes qui seraient la vraie religion et les fausses religions, on est toujours dans le même genre de débat. Il n'y a pas moyen d'en sortir, les gens vont échanger des arguments, et puis ça mène à rien. Donc, pour moi, le moyen d'en sortir, enfin un moyen d'en sortir, c'est de mettre entre parenthèses la question de la croyance. Méthodologiquement, hein, disons, je dis pas que c'est pas intéressant, je dis pas que il faut pas s'en occuper du tout, hein, mais c'est une question piégée, c'est très difficile d'échanger à ce propos-là. Donc, méthodologiquement, on la met entre parenthèses. Et à ce moment-là, de quoi peut-on s'occuper ? Eh ben, on peut s'occuper des textes, alors de ce que disent les gens. Qu'il s'agisse de mythes au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire des récits sur l'origine du monde, en gros, et l'origine des détails du monde, ou de n'importe quel autre texte, récit, qui soit l'objet de croyance. Mythos en grec, un mythe, c'est donc un récit, sans jugement de valeur, à l'origine, sur la validité ou pas du récit. Au départ, c'est n'importe quel récit, hein, c'est un récit. C'est plus tard que le terme en est venu à désigner, ben, chez nous notamment, un récit forcément faux. Quand on dit de quelqu'un c'est un mythos, ben, c'est qu'il raconte des cracks, voilà, il raconte des salades, on peut pas le prendre au sérieux. En fait, non. Le terme à l'origine, c'est simplement un récit, et il s'est spécialisé au sens de récit qui explique l'état actuel du monde. Un récit qui donne l'origine des choses telles qu'elles sont maintenant, puis qui les justifie. Bon. Et ça, par définition, les religions s'appuient sur des récits comme ça. Les religions, derrière ce qu'on appelle religion, parce que ça c'est un vaste débat, ce que c'est qu'une religion, mais en gros, sans entrer dans le détail, une religion quand même s'appuie sur un récit qui va nous donner une explication du monde, qui va nous donner une origine du monde, qui va expliquer pourquoi le monde est comme il est maintenant. Et on va raconter, par exemple, bah, qu'il n'a pas toujours été comme ça. Qu'à l'origine, au début des temps, c'était autrement, les hommes étaient immortels, par exemple, et puis il s'est passé quelque chose. Dans les mythes, il y a toujours une rupture, il y a un événement qui introduit une rupture, et après cet événement, et ben maintenant, les choses sont comme elles sont maintenant. Voilà. Quelqu'un a fait une bêtise, a fait quelque chose qu'il fallait pas faire, a rompu un tabou, et voilà, depuis, et ben les hommes sont mortels. Voilà. Ça, c'est un schéma typique, traditionnel, extrêmement répandu. Ou bien les humains ont fait des telles bêtises que les dieux ont décidé de les détruire. Donc il n'y a pas 36 000 solutions, c'est soit par l'eau, soit par le feu. Donc par l'eau, c'est un déluge, par le feu, c'est ce qu'on appelle les pyrosis, c'est un déluge de feu. Et on détruit les humains pour en refaire une nouvelle race d'humains. Voilà. Et c'est nous, maintenant, c'est les mythes de double création. Ça explique pourquoi nous sommes comme nous sommes, voilà. Pas vraiment parfait, mais meilleur que les premiers qui avaient été créés. C'est toujours la même chose.
Donc, c'est-à-dire qu'un mythe, hein, donc, selon les mythologues, un mythe peut être quelque chose qui fait référence, à l'origine de l'humanité, mais ça peut être aussi un récit qui fait référence à des choses plus récentes.
Oui.
Donc, il n'y a pas forcément la notion d'ancien,
Pas forcément. Okay. Non. Alors, par exemple, il y a dans plein de populations du globe, il y a un fait massif qui est survenu, qui est la colonisation, où les premiers voyageurs, l'arrivée d'hommes blancs qui viennent en bateau et qui abordent sur le rivage pacifiquement, et puis après de moins en moins pacifiquement. Et donc ça, c'est un truc énorme, massif, qui démolit complètement la vision du monde, la cohérence de la vision du monde qu'avaient ces gens. Et donc ils ont en parade à cet événement complètement nouveau, qui était donc une rupture nouvelle, une autre rupture réelle cette fois, pas mythique. Et bien ils ont reconstruit d'autres mythes pour expliquer ça et l'intégrer dans leur grande histoire du monde. Par exemple, c'est le cas de ce qu'on appelle le mythe du cargo. Voilà, où les gens ont vu que les Blancs arrivaient, qu'ils avaient ils avaient le fer qu'eux n'avaient pas, ça leur donnait une puissance extraordinaire, ils avaient des tas de trucs qu'eux n'avaient pas, les armes à feu, tout ça. Et donc, ils se sont demandé pourquoi eux n'avaient pas ça, alors que les Blancs avaient toutes ces choses qui leur donnaient une telle puissance. Et l'idée, ça a été de dire, bon, ils ont sûrement des rites des divinités, voilà, qu'on n'a pas, on est passé à côté, on n'a pas fait ce qu'il fallait, et donc ils ont observé, et ils ont vu, par exemple, tous les blancs et tout ce qu'ils apportaient avec eux venait par avion, et que ces avions se posaient sur des petits aéroports, voilà, qu'il y avait une tour de contrôle, tout ça, et donc les gens se sont mis à construire une tour de contrôle en bambou ou en bois, défrichée pour faire un truc d'aéroport, et puis se sont mis à faire des prières parce qu'ils pensaient, dans leur façon de voir le monde, que les blancs devait avoir certainement un système de prière qui fait que, de temps en temps, le cargo, c'est-à-dire ces avions qui portaient les marchandises, arrivaient et donnaient les marchandises. Ils ont vu ça comme quelque chose, un événement divin, surnaturel, etc. Mais qui, pour eux, était naturel. Et voilà, ça c'est un exemple de choses, de création mythique tout à fait récente et qui donne une explication, qui modifie l'ancienne explication du monde pour expliquer comment le monde est tel qu'il est maintenant. Et en gros, on peut dire plus généralement, du coup, que le mythe, c'est un récit qui explique l'état du monde. Et qui peut expliquer, alors, du coup, pourquoi il y a des puissants et des misérables, pourquoi il y a des gens qui sont riches et pourquoi il y a des gens qui sont pauvres, pourquoi certaines populations sont en conquiert d'autres, etc., etc. Voilà, ça justifie l'état du monde, y compris dans tout ce qu'il a, disons, d'un peu inquiétant et d'un peu misérable. Voilà, donc c'est pas forcément un mythe, c'est pas forcément quelque chose d'ancien. On pense ça souvent, pourquoi ? Parce que dans notre tête, on a quand même, du fait qu'on est passé à l'école et tout ça, hein, on a appris justement la mythologie grecque, un petit peu de mythologie grecque, et parfois maintenant un peu de mythologie égyptienne. Effectivement, c'est ancien. Et la question, c'est comment on fait pour reconnaître un mythe ? Et la réponse, là, elle est très simple, c'est il faut prendre de la distance. Et il y a deux types de distance, il y a une distance temporelle, et une distance spatiale. La distance temporelle, c'est facile, c'est justement les Grecs, les Égyptiens, les Celtes, les anciens Germains, etc. Et donc, quand on regarde leurs textes, on regarde leurs écrits, on voit toutes les histoires, par exemple, avec Zeus, Léda, Zeus qui coïte avec des tas d'animaux qui, en fait, sont des êtres métamorphosés, qui lui-même se métamorphosent, toutes ces histoires. Pour nous, on voit tout de suite que ce sont des mythes. Ça me paraît complètement évident, c'est presque même devenu synonyme mythologie grecque de mythe tout court, voilà. Et une autre façon de reconnaître les mythes, c'est de regarder au loin. Alors, les Bororo de Lévi-Strauss, voilà, les Papous en Papouasie-Nouvelle-Guinée, là, on regarde ce qu'ils racontent sur l'origine du monde, et on se dit, ah ben non, mais là, on voit très bien quand même que tout ça, c'est des mythes, ça n'a rien à voir avec la réalité, voilà. Et le plus difficile, ce qui est vraiment extrêmement difficile, c'est de se considérer soi-même. De se dire à un moment donné, mais voyons, si tous les peuples du monde, dès qu'on les observe et qu'on prend une distance, on va pas se poser la question de croire ou pas croire à ce qu'ils racontent, on regarde simplement et on voit tous que tous ont une mythologie, un type d'explication du monde. Qu'en est-il de nous ? Où est notre mythologie ? Quelle est-elle ? Comment la mettre au jour, ça c'est la chose la plus difficile. Autant c'est facile de reconnaître chez les autres, autant c'est très difficile de reconnaître chez soi. Parce qu'on n'a pas le recul. Là, on n'a pas le recul.
C'est ça, on baigne dedans, comme on baigne dans notre culture. Et donc c'est...
Exactement. Et aussi, pour une raison simple, c'est que pour chaque peuple du monde, son récit sur le monde est le seul vrai. Donc c'est vrai pour nous aussi. Et c'est vrai dans toutes les discussions, en gros, hein. C'est-à-dire que nous pensons que ce que nous professons comme récit sur le monde, eh ben c'est ça le vrai, et que les autres, c'est soit faux, soit ils pourraient mieux faire, disons, soit c'est des récits pré-scientifiques. Et on a longtemps considéré la mythologie comme quelque chose de, disons, un récit pré-scientifique du monde, une explication pré-scientifique du monde. Les gens racontaient ces récits-là parce que ils n'avaient pas encore la démarche scientifique et qu'ils étaient sur la voie. Les Grecs ont longtemps constitué un scandale parce que les Grecs, depuis la Renaissance, chez nous, c'est le parangon de la rationalité. C'est eux qui ont introduit justement les raisonnements, l'étude naturaliste du monde, Aristote, tout ça. Et en même temps, on voit qu'ils ont l'air de croire des choses complètement abracadabrantes. Ouais. Ça paraissait complètement scandaleux pendant très longtemps à de nombreux auteurs qui comprenaient pas ça, qui trouvaient ça complètement invraisemblable, impossible même, et qui, pour sauver la possibilité que ces deux façons de voir le monde coexistent chez un même peuple, ont pensé une vision évolutionniste de l'ensemble de l'humanité. En rangeant d'un côté tout ce qu'on a appelé les sauvages ou les naturels, alors les naturels, ça, par définition, ils sont pas du côté de la culture, donc voilà, ils sont naturels, donc ils ont pas encore bien réfléchi à rien, voilà, ils prennent les choses comme elles viennent, voilà, ils sont assez proches des animaux, voilà, et eux, alors ils ont des mythes complètement abracadabrants et rien d'autre. Et puis nous, bon, nous avons la rationalité, nous avons maintenant la science, qui nous a permis de nous détacher du mythe. Et puis entre les deux, sur ce chemin évolutif, eh ben, il y a des gens comme les Grecs qui sont sur la bonne voie, disons, qui conduit à notre propre excellence, mais qui sont encore un petit peu englués dans l'ancienne façon de voir. Voilà. On a eu, pendant très longtemps, les ethnologues, mythologues, anthropologues ont eu cette façon de voir l'histoire de l'humanité comme un long chemin qui mène de l'irrationnel au rationnel.
Ok, ouais, là, quand on t'entend, on voit bien ressortir cet aspect mythologique de notre propre culture. Où on voit bien qu'ils ont voulu présenter l'évolution des choses d'une certaine manière qui ne correspond pas forcément aux nuances de la réalité, parce que même aujourd'hui, même si après les Lumières, on avait cette idée que la science allait éradiquer la subjectivité, les fausses croyances, etc., on voit bien que globalement, c'est pas ce qui s'est passé, quoi.
Exactement. Alors on a pensé que voilà, c'était une question. Il y a eu un deuxième scandale, donc je parle du premier scandale. Donc, les Grecs, quand même un mystère, puisque des gens aussi rationnels, croyant des choses aussi irrationnelles, c'était incompréhensible. On a sauvé ça avec donc cette vision évolutionniste. Bon. Et du coup, ce qui vient tout de suite après, c'est de dire, bon voilà, tout ça c'est une question d'éducation, en fait. Avec une éducation suffisante, on se détache de toutes ces choses, de toutes ces superstitions, ces choses anciennes qui sont des survivances, voilà, des reliquats. Et puis au XIXe siècle, quand on a commencé à faire la même démarche que faisaient les ethnologues auprès des peuples du monde, Amérique, Afrique, voilà, Océanie, etc. Quand on a commencé à faire la même démarche en Europe, quand on a commencé à collecter les traditions orales d'Europe, bon, il y a beaucoup, beaucoup de grands chercheurs qui ont fait ça, voilà, les frères Grimm qui ont commencé, et puis en France, il y a Sébillon, il y en a beaucoup d'autres, et bien, on s'est aperçu que les gens, chez nous, je veux dire, en Europe occidentale, du 19e siècle, mais c'est vrai encore maintenant, racontaient des choses aussi abracadabrantes que ce que racontaient les Grecs. Et il y avait aussi des explications du monde, à la fois de l'origine du monde, etc., mais de l'état actuel du monde, des notions sur la botanique, la zoologie, enfin de tout ce qu'on peut observer dans le monde, qui paraissaient là encore aux chercheurs absolument abracadabrantes. Et là, c'était encore plus scandaleux, puisque c'était pas les anciens Grecs. À la limite, les anciens Grecs, c'est pas très grave, ça nous concerne très moyennement. Mais là, c'était les gens, chez nous, les paysans, les ouvriers, ensuite, quand on s'est aperçu que, quand on a commencé aussi à faire des collectes comme ça chez les ouvriers, chez les marins, etc., on s'est aperçu qu'en fait, il n'y avait pas de différence fondamentale. Et là, c'était un coup très sérieux à cette idée de l'évolutionnisme. Ça montrait tout de suite que ça ne marche pas. S'il y a évolution, et si on part des peuples dits naturels, en passant par des peuples du type des Grecs pour arriver à des peuples qui seraient parfaitement rationnels, détachés de la mythologie, comment se fait-il que l'immense majorité des gens chez ces derniers peuples-là continuent à croire des choses qui paraissent complètement abracadabrantes d'un point de vue scientifique? Là, ça a jeté un froid. On a à ce moment-là élaboré pour essayer de s'y retrouver une nouvelle fois, on a élaboré la notion de mentalité primitive. C'est-à-dire qu'il y aurait une mentalité primitive dont on se détacherait là aussi, mais très difficilement, parce que c'est quelque chose qui est en nous, hein, qui serait vraiment en notre esprit, ce que dit bien le terme mentalité, et qui fait que qui serait complètement irrationnel, en fait. Qui serait presque une ennemie de la rationalité, et donc ce n'est que par l'école, l'éducation, que on pourrait s'en libérer. Et du coup, ça expliquerait que ce soit encore présent en Europe, chez les paysans, par exemple, qui n'ont pas eu la chance de passer par l'école, d'avoir une éducation, etc. Voilà. Et ben ça aussi s'est tombé, puisque maintenant il apparaît de manière évidente que les deux, c'est-à-dire cette façon, cette prétendue mentalité primitive, c'est la pensée sauvage de Lévi-Strauss, c'est-à-dire une façon de penser qui n'est pas irrationnelle, mais qui n'est pas la pensée scientifique, coexiste avec la possibilité de la pensée scientifique avec la rationalité. C'est même une pensée rationnelle, en fait, et qui fonctionne sur des bases différentes et qui a une fonction différente que la fonction scientifique. Donc ça a été un très long chemin pour s'apercevoir que, finalement, peut-être qu'on peut dire le plus récent des mythes, et peut-être le plus dangereux des mythes, c'est s'imaginer qu'on se serait débarrassé de la mythologie. Ouais,
ouais. Oui, ce que tu dis, ça me fait penser aussi un peu aux travaux de Gerald Bronner, dans le sens où il a bien montré, il explique assez bien que finalement, tout ce qu'on traite d'irrationnel ou de ce qui est souvent critiqué à ce niveau-là, si on s'intéresse un peu au fonctionnement des biais cognitifs ou de ces croyances irrationnelles, on y trouve toujours un certain sens qui est assez logique et assez cohérent, et qui, voilà, donc ces croyances, elles existent parce qu'il y a un manque d'informations ou parce qu'il y a des biais qui font que la personne ne dispose pas du temps suffisant ou de la motivation suffisante que pour traiter l'information correctement, mais c'est pas vraiment irrationnel en soi, quoi. Finalement, il y a assez peu d'irrationnel dans la pensée humaine, sauf exception, évidemment, quoi.
Oui. La preuve, c'est que justement, les gens qui étudient ça et qui étudient ça par les cognitivistes, l'étudient de façon rationnelle. Enfin bon, ils trouvent des raisons à l'existence de tout ça. Donc c'est pas quelque chose qui n'offrirait aucune prise à la rationalité. Ouais. Et toute l'œuvre de Lévi-Strauss montre que malgré ce qui semble en être quand on regarde les mythes, par exemple, derrière il y a une rationalité qui peut être extrêmement complexe, mais qui n'a pas la même fonction que les raisonnements scientifiques, voilà. Et ça c'est parfois assez difficile, c'est quand même un petit peu difficile à accepter, quoi, de se dire il y a une rationalité dans ces récits qui ont l'air complètement abracadabrant. Mais je crois qu'il faut l'accepter. Et du coup, pour renouer avec ce que je disais au début, de mettre entre parenthèses méthodologiquement cette histoire de croyance, il me semble que du coup, comme on a affaire toujours à des récits, là où on peut se mettre d'accord, c'est sur l'étude des récits. Parce qu'un récit, il a un début et puis il a une fin. Donc on peut se mettre d'accord sur le début, où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il finit. C'est quand même assez facile. Et après, généralement, il y a un développement. Donc le développement, il est en combien de parties ? Il y a deux parties, il y a trois parties. On parle de personnages, combien il y en a ? Les personnages sont agents des actions ou ils subissent les actions ? Toutes ces choses-là, on peut se mettre d'accord assez facilement. Il suffit d'étudier le récit et puis de regarder. Si moi je dis il y a trois personnages, et si mon interlocuteur dit non, il y en a quatre. Bon, c'est facile, hein, on va pas se discuter toute la nuit pour se mettre d'accord, on va regarder, on va compter. Hein, et puis, il va dire, je me trompais, effectivement, il y en a trois. Bon, d'accord. Un récit, ça peut donc s'étudier de cette façon-là, de manière très claire, On peut étudier les récurrences des termes, enfin, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui étudient les récits avec des techniques appropriées, mais c'est à la portée de tout le monde, et on peut ensuite les comparer. Et moi, ce qui m'intéresse, par exemple, dans ce qui concerne les religions, ou ce qu'on appelle les religions, en tout cas les récits qui ont prétention d'expliquer le monde, c'est de voir comment ils sont construits et de les comparer. Et autant ils peuvent être différents en apparence, autant parfois, quand on les observe bien, un peu à la Lévi-Strauss, ou aussi à la Dumézil, on s'aperçoit qu'au fond, il y a une structure commune, par exemple. Et qu'à ce moment-là, si on se dit, tiens, il y a une structure commune, c'est curieux, comment ça se fait ? Est-ce que c'est une structure de notre esprit ? Est-ce que c'est notre esprit qui est fait de telle manière que, forcément, on retrouve des structures, un nombre limité de structures dans tous les récits, par exemple. Bon. Ou est-ce que c'est parce que ces récits, en fait, ont une origine commune, ou en fait, l'un dériverait de l'autre. Et du coup, on change complètement l'approche si on procède de cette façon-là. On oublie l'aspect j'y crois pas, pour arriver à des choses objectives sur lesquelles on peut se mettre d'accord tout en n'étant absolument pas d'accord sur les questions de fond que traite le récit. Il y a mon Mac qui s'est mis en veille.
Ah, pas de souci.
Oui, donc on peut se mettre d'accord là sur tous ces points qu'on peut objectiver, tout en étant au fond pas d'accord sur le fond de la croyance. Mmh. Mais du coup, en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait ? Soi-même, on prend une distance par rapport à son propre récit. Mmh. Et du coup, on fait une démarche proprement anthropologique. On commence à faire un petit pas de côté par rapport à ses propres croyances. Mmh. Et je pense que ça, c'est absolument indispensable pour aller plus loin. Et pour avoir, par exemple, une démarche proprement zététique. Il faut absolument... ça ne consiste pas à critiquer les croyances des autres. Mmh. D'autant plus que, par définition, les croyances, c'est toujours les autres. Les autres, ils croient des trucs bizarres. Bon, mais moi, je sais bien que c'est bizarre. Et par contre, moi, je sais ce qu'il faut croire. Je sais quelle est la vérité. Tant qu'on est à ce point de départ, on peut aboutir à rien. Je pense que le moyen, c'est donc de faire un pas de côté en disant, en fait, je suis en train de critiquer l'autre là sur ses croyances, mais moi aussi, en fait, on peut me rendre le compliment tout à fait de la même manière. Je suis aussi, j'ai aussi des croyances tout aussi critiquables, dont je connais pas finalement très bien la source. Même si peut-être j'ai l'impression que, mais non, au fond, pas vraiment. Et une fois qu'on a commencé à mettre le doigt à faire un petit pas dans cette direction, je pense que là, on peut continuer et aller très très loin. Là, ça devient vraiment intéressant.
Ok. Et donc, par rapport à donc cette étude comparative des mythes, finalement, est-ce qu'il ressort de cette étude comparative des patterns communs, quelque chose qu'il y a de commun dans tous ces mythes?
Alors après, bon, il y a une des explications qui a été donnée des ressemblances entre mythes, parce que ça c'est une chose qui a tout de suite frappé, c'est de le dire, c'est curieux, parce que voilà, je regarde en Amérique du Sud, par exemple un mythe sur l'arc-en-ciel par exemple, bon voilà, et je regarde en Australie, qu'est-ce qu'il raconte sur l'arc-en-ciel, et paf, je tombe sur des histoires qui sont extraordinairement similaires. Évidemment, les héros s'appellent pas pareil, il y a des différences, le contexte écologique, je dirais, n'est pas le même, etc. Mais le récit, si on regarde sa structure, comment il se développe, etc., c'est le même, finalement. Alors ça pose un gros problème. Et ce problème a été repéré depuis longtemps, et en fait, il n'y a pas énormément d'explications possibles. Une explication possible, c'est de dire, c'est normal, parce que notre esprit, nous sommes tous humains. Donc notre esprit est fait de telle manière que bah, il fonctionne chez tous les humains en gros de la même manière, bon, et sur une matière similaire, avec des données similaires, dans un contexte socioculturel similaire, disons, voilà, et ben l'esprit humain va produire des choses comparables. Mmh, ouais. C'est la théorie des archétypes. Alors ça c'est acceptable, c'est pas démontré. Mais c'est acceptable, disons, à titre d'hypothèse, pour des choses simples, pour des images, par exemple. Mais même pour ça, c'est très discutable. Par contre, c'est extrêmement difficile à admettre quand on a des mythes extrêmement compliqués, qui peuvent pas se raconter en moins de 2 ou 3 heures, donc des récits extrêmement complexes. Là, on imagine mal que ça sorte de notre esprit spontanément, dans toutes les cultures, à n'importe quelle époque, et de façon aussi extraordinairement similaire. Et l'argument qui prouve que c'est pas vrai, c'est que si c'était vrai, alors on l'aurait partout, si ça venait de notre esprit.
Et ça, peut-être juste, je t'interromps pour préciser un peu cette notion d'archétype. Donc, pour que les auditeurs comprennent bien. Donc la notion d'archétype, c'est pas exactement la même chose que de simplement se dire, comme on vit tous dans la même planète et qu'on voit tous le ciel, il est logique qu'on ait tous des mythes sur le ciel, par exemple. Oui. C'est plus lié à quelque chose qui est lié au fonctionnement du cerveau ou au fonctionnement de l'inconscient, quoi. Oui. Donc quelque chose qui est structurel chez l'être humain, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Par exemple, ce serait de dire, voilà, un archétype classique, très souvent donné un exemple, c'est l'archétype de la Terre-Mère. Voilà, qui nous paraît évident, hein. Ça choque personne de parler de la Terre-Mère. Il y a même des magasins qui s'appellent comme ça. Il y a le mouvement Gaïa, tout ça. Bon, la Terre-Mère, ça paraît quelque chose d'assez évident, quoi. Et donc du coup, et puis on le retrouve dans plein de peuples différents, à des époques différentes, cette idée de la Terre-Mère, de la grotte matrice, etc. Bon, voilà. Et donc l'idée est très vite venue, bon, à Jung notamment, puis à d'autres ensuite, que c'est un universel, c'est notre esprit en fait qui informe la réalité, parce qu'a priori on peut se dire pourquoi la Terre serait plus mère que père finalement, tout ça peut se discuter. Bon, et donc on aurait dans notre esprit quelque chose, alors c'est ça qu'on a appelé archétype, ouais, qui nous pousse, si je peux dire, à considérer la Terre comme une mère. Voilà. Et puis du coup, ce serait ensuite justifié par le fait qu'elle a des enfants qui sont les arbres qui poussent, nous-mêmes, etc. Bon. Alors, le problème, c'est que quand on regarde l'ensemble des mythologies du monde, on a deux démarches possibles. Soit on cherche à confirmer cette croyance, parce que ça, c'est une croyance de dire à ce stade, ça n'est qu'une croyance. Je crois qu'effectivement, c'est universel. Bon. Il y a des gens comme Jung et Williard ou d'autres qui ont tenté de confirmer cette croyance et qui ont cherché dans l'immensité des bibliothèques d'ethnologie des peuples qui affirment qu'effectivement la Terre, elle est mère. Et donc on en trouve 22, 300, 200, on en trouve plein, effectivement. Mais c'est pas parce qu'on en trouve plein que ça prouve la véracité de ce qu'on cherche à démontrer. On n'a jamais démontré la véracité d'une affirmation par des exemples. Les exemples, ça n'est que des exemples. Voilà. Si je dis tous les intellectuels ont des lunettes, bon ben on peut en amener plein, ou tous les journalistes par exemple ont des lunettes, bon ben on peut amener plein de journalistes qui ont des lunettes qui vont sembler confirmer ça, mais il suffit qu'il y en ait un qui n'ait pas de lunettes et puis s'effondre. Bon. C'est exactement ça qui s'est passé. Parce qu'en réalité, on s'aperçoit très vite qu'il y a des peuples qui pensent que la Terre est masculine. Un qui est très connu, c'est les Égyptiens, par exemple. On a des belles images sur les papyrus égyptiens qui montrent la Terre avec un magnifique phallus en train de pénétrer le ciel, qui lui est féminin. Okay. Donc, ça n'est pas un archétype. Voilà, on n'en parle plus, c'est fini. Ça ne peut pas être un archétype, puisque ça ne peut pas être universel, puisque y a des gens. La preuve, c'est que les Égyptiens, par exemple, parce qu'il y en a d'autres, eux pensent le contraire, ont affirmé le contraire. Bon. Donc, si ça n'est pas un archétype, alors, on revient quand même au problème. Comment se fait-il que des peuples lointains, même extrêmement lointains, qui ne peuvent pas se contacter actuellement, professent les mêmes récits ou les mêmes visions du monde, parfois extrêmement complexes? Si on a un peuple A et un peuple B, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit c'est les A qui l'ont piqué au B, c'est les B qui l'ont piqué au A. Bon, si on peut prouver qu'ils n'ont jamais eu de contact ensemble. Exemple, les Indiens de Patagonie, et puis les aborigènes d'Australie. Bon. Aucun contact historique connu, même possible. Bon, donc ça peut pas être ça. Donc il faut trouver une autre solution. L'autre solution qui reste, c'est de dire les A et les B, il y a deux possibilités encore, soit tous les deux l'ont hérité d'une troisième population qui les C, qui ont disparu. Soit tous les deux, à une certaine époque très ancienne, vivaient côte à côte. Et du coup, à ce moment-là, ils ont pu se l'échanger ou ils ont pu l'emprunter tous les deux aux fameux C qui maintenant ont disparu. Et en fait, en procédant comme ça, on s'aperçoit que effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et la seule façon qui, à mon sens, et du coup, ce sera une démonstration un peu longue, mais on peut le démontrer, qui tienne la route pour expliquer ce genre de choses qui peuvent paraître comme des coïncidences, mais qui n'en sont pas, c'est simplement une diffusion des mythes. Les récits se sont diffusés avec les humains. Les grands récits de création du monde, notamment, se sont diffusés avec les premiers humains. Certains grands récits de création du monde se sont diffusés avec la sortie d'Homo sapiens out of Africa. Et donc, ils sont extrêmement anciens.
Et donc, est-ce que ça veut dire qu'avant cette époque-là, on considère qu'il n'y avait pas de mythe? Ou c'est parce qu'on n'a pas de traces possibles pour le vérifier ou...
Alors, c'est... Les questions d'origine, elles sont toujours absolument redoutables, quoi, et très généralement insolubles. Donc, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'origine. Si la question, c'est quelque chose du genre, bon, ben, les premiers mythes, les tout premiers mythes, quels étaient-ils, d'où viennent-ils? Personne ne peut répondre à ça pour l'instant. Ce qu'on peut faire, c'est remonter dans le temps beaucoup plus haut que ce qu'on pensait jusqu'à il y a peu de temps. Peu de temps, plus ou moins, parce que dès le 19e, il y a des gens qui ont quand même vu que, par exemple, en Sibérie, disons dans l'extrême nord-est de l'Eurasie, et puis dans le nord, la côte nord-ouest de l'Amérique, on a des mythes extrêmement semblables qu'on trouve pas ailleurs. et de part et d'autre du détroit de Bering, c'est les mêmes. Et du coup, très tôt, il y a eu cette idée que, en passant le détroit de Bering, au moment où les humains ont peuplé l'Amérique, au moment de l'un des peuplements de l'Amérique, peut-être dès le premier peuplement, et bien les gens sont passés, mais ils sont passés avec des techniques et aussi avec une vision du monde. Et ils ont des langues aussi et une vision du monde. Et certaines mythologies sont passées en Amérique en même temps que les humains ont passé par le détroit de Bering. Voilà. Donc ça, c'est une chose dont on est à peu près sûr depuis pratiquement un siècle, même plus, un peu plus. Plus que ça, jusqu'à présent, c'était assez difficile. Alors maintenant, en utilisant des outils statistiques, notamment les outils qu'utilisent les phylogénéticiens, on peut faire des démonstrations, et même des démonstrations chiffrées en termes de probabilité, d'apparentement, de groupes de mythes, qu'on pourrait trouver, par exemple, en Eurasie et en Amérique, et en Afrique aussi. En les comparant avec certaines techniques, on peut construire des arbres généalogiques des mythes, exactement comme les arbres que fabriquent les phylogénéticiens. Et du coup, on peut démontrer que certains mythes, alors je pense par exemple au mythe de l'émergence, sont nés en Afrique. Le mythe de l'émergence, c'est celui qui dit qu'autrefois, à l'origine même, l'humanité vivait sous terre. Et les animaux aussi vivaient sous terre, et que un jour ils ont vu une petite lumière. Quelqu'un a vu une petite lumière au plafond, et ils se sont dit tiens, il y a de la lumière là-haut. Ils ont bricolé une échelle, un système de cordes qui leur a permis de monter. Il y en a un qui est sorti, qui était voir ce qu'il y avait. Il a trouvé que c'était pas mal. Il a vu entre autres qu'il y avait des fruits, qui avaient l'air excellents. Il est revenu expliquer ça aux autres, et tout le monde est sorti. Et l'humanité donc a émergé. C'est ce qu'on appelle l'émergence primordiale de l'humanité. Ça, c'est un mythe qui est très répandu. Moi, on me l'a raconté au Botswana, par exemple, où on m'a montré un trou dans le sol, dans un endroit où on m'a dit les premiers hommes, ils sont sortis par là, par ce trou-là. Et autour, on voit des traces, c'est les traces de leurs doigts quand ils se sont agrippés pour sortir, parce que c'était très vieux, très vieux, très vieux. Ça, c'était au temps où la terre était encore molle, où les roches étaient encore molles. Et donc, on a les traces de leurs doigts, puis quelques traces de pas, et puis après, ils sont partis, ils ont peuplé le monde. Et la même histoire...
Ça a été bien conservé.
Oui. En fait, c'est des traces naturelles, d'ailleurs. Hein. Ouais. À cet endroit-là, c'est des traces naturelles, c'est ce qu'on appelle des ripple marks sur le grès, c'est les anciennes traces de rivage, laissées par l'eau. Mais qui ont été interprétées comme ça, et qui servent un peu, disons, pour les gens de cet endroit, comme preuve de la véracité du récit. Parce qu'évidemment, pour eux, c'est un récit qui dit le vrai. Le mythe dit toujours le vrai pour ceux qui l'énoncent. Et dans les sociétés dans lesquelles il est énoncé. Donc là, c'est la vérité. C'est pas la peine d'essayer d'expliquer autre chose. C'est ça la vérité. Et en Amérique du Nord, il y a un Amérindien Hopi, Bertrand de Savadava, qui m'a raconté la même histoire. En montrant également l'endroit où sont sortis les premiers hommes avant leur dispersion sur l'ensemble de la Terre. Voilà, donc pour se limiter à cet exemple-là, on a deux endroits extrêmement éloignés, pas du tout de possibilité de contact entre les Hopis et les gens du Botswana. Comment faire? Eh bien, on peut collecter toutes les variantes de ce récit, toutes celles qu'on peut, collectées, toutes celles qui sont connues. Évidemment, il y a des peuples qui ont disparu avant même qu'on recueille leur langue et encore moins leur mythe. Bon. Mais toutes celles qu'on peut recueillir, on les recueille, faire une base de données et puis en faire la répartition, ce qu'on appelle l'aréologie, la dispersion sur le globe, voir où est-ce qu'il se trouve cette histoire, où est-ce qu'on la trouve, où est-ce qu'on ne la trouve pas. C'est aussi très intéressant de voir où on la trouve. Et puis ensuite de brasser tout ça dans des logiciels de phylogénétique qui, eux, sont utilisés généralement pour comparer les codes génétiques, pour mesurer l'apparentement des espèces. On compare les codes génétiques avec des algorithmes statistiques qui permettent de mesurer leur proximité. Et évidemment, plus les codes génétiques sont proches, plus les espèces concernées descendent d'un ancêtre proche et sont plus apparentées. Et bien, on est même pour les mythes à une condition, c'est qu'on puisse les coder, faire une espèce de code génétique des mythes, si on peut dire. Et ça, c'est possible en trouvant un système de codage. Il suffit de trouver un système de codage des histoires. Bon, ça se fait. Et on brasse ça dans les logiciels en question. Et ils fabriquent un arbre généalogique, disons un phylogramme, qui permet de visualiser l'histoire du mythe, pas son origine ultime, bien entendu, parce que ça, c'est sans doute jamais qu'on saura ce genre de choses, mais au moins son histoire depuis le moment où elle est à peu près perceptible. Et on s'aperçoit que, en fait, pour ce mythe-là, l'origine, c'est en Afrique australe, et que ce mythe est probablement passé en Eurasie, avec la sortie out of Africa vers, disons, un peu plus de 100 000 ans, entre 100 et 200 000 ans, pour être large. Et ensuite, il s'est diffusé à la fois en Eurasie, en direction de l'Europe. Il a passé le détroit de Bering, donc vers quelque chose comme, disons, entre 30 000 et 16 000 ans. Et ensuite, il a peuplé l'Amérique. Voilà. Et donc ça, on peut en suivre la trace. Et on peut suivre toutes les petites modifications du mythe au long de son chemin. Parce qu'évidemment, il ne s'est pas transmis de manière absolument intacte. Les gens répètent les histoires en les modifiant un petit peu, pour des tas de raisons, notamment pour s'adapter à l'endroit où ils se trouvent, pour adapter les histoires à la faune environnante, au paysage environnant, à la façon de voir des gens auxquels ils s'adressent. Et on voit que le mythe se modifie petit à petit, petit à petit, petit à petit, et qu'évidemment, les versions les plus éloignées des versions originelles, qui sont celles qu'on a pu collecter en Afrique australe, eh bien, c'est celles qui se trouvent en Afrique du Sud, en Amérique du Sud. Voilà, ce qui est parfaitement logique.
Ok. C'est super intéressant. Moi, ça me fait penser à une question qui est peut-être un petit peu étrange, quoique. C'est est-ce que dans tous ces mythes, moi je pense plus aux des mythes plus contemporains ici avec cette question, mais est-ce que en général ces mythes ils émergent de la pensée ou du contact de toute une série de personnes, ou est-ce qu'il y a des exemples où on voit clairement que une personne ou un groupe de personnes ont créé volontairement un mythe pour en tirer un avantage particulier?
Ah, pour en tirer un avantage, je ne sais pas, mais ma réponse est oui tout de suite. Après, pour donner des exemples, c'est moins évident, puisque je suis prêt de donner des exemples qui vont faire sauter au plafond. Par exemple, la théorie des archétypes, pour moi, c'est un mythe moderne.
Oui.
Voilà. Disons que un exemple qui pourrait répondre à cette question, un groupe d'exemples en fait, une catégorie de mythes, ce sont les mythes scientifiques. C'est pas des, j'entends pas par là des savants qui de manière absolument machiavélique auraient fabriqué vraiment dans le but d'en tirer je ne sais quel avantage, des histoires fausses ou des théories dont ils savaient qu'elles étaient fausses pour tromper le monde à je ne sais quelle fin. Non, c'est pas ça du tout. Hein. C'est des gens qui ont travaillé avec un esprit scientifique, qui pensait, on leur aurait dit qu'ils faisaient pas de la science, ils auraient sauté au plafond, hein, mais qui ont produit des thèses qui, avec le recul, nous apparaissent comme autant de mythes. Alors, par exemple, la théorie des archétypes, pour moi, c'est un mythe, puisque au moment où elle a été créée, et jamais depuis, il n'y a aucune preuve scientifique de cette théorie, mais qu'elle est acceptée pour vraie par des tas et des tas de gens. Voilà. Et après ça peut s'élargir à beaucoup d'autres théories, enfin d'autres façons qui sont toutes aussi à leur manière des façons d'expliquer le monde, hein, parce que si je prends l'homéopathie. L'homéopathie, c'est une technique, on peut dire que c'est pas un mythe. Oui, mais c'est une technique qui s'appuie sur une mythologie, il y a un récit derrière. Vous explique. La médecine chinoise et ses avatars occidentaux, parce que la médecine chinoise, bon, c'est quelque chose d'ancien, etc., donc qui n'est pas contemporain, mais elle a des avatars occidentaux, ou le chamanisme, le néo-chamanisme, les avatars occidentaux du chamanisme aussi. Tout ça, pour moi, ça fait partie de la mythologie contemporaine, parce que ça s'appuie sur des récits, des visions du monde, des visions explicatives du monde. Les gens sont tout à fait, sont pas du tout avares, hein, si on les interroge, d'expliquer pourquoi le monde comme il est, ils ont des choses, voilà, des récits qui expliquent le monde, et puis là-dessus, ils construisent, ou ils ont une pratique, des pratiques qui peuvent être médicales ou de contact avec les esprits pour le chamanisme, etc. quoi. Et ça, c'est vrai pour tous les mythes. C'est le rapport entre mythe et religion que j'évoquais au début. Hein, quoi qu'on entende par le terme religion, parce que là, il faudrait en parler longuement, mais disons, il y a toujours un récit derrière. Il y a toujours un récit, ça se fait toujours sur un récit qui explique pourquoi le monde est comme il est, qui explique le fonctionnement du monde, qui explique éventuellement son origine, en tout cas qui le justifie, qui explique pourquoi c'est comme ça. Et là-dessus se branchent des pratiques, des rituels, des façons de faire qui sont déduites en fait et qui fonctionnent avec ce type de récit. Bon ben c'est vrai pour moi, hein. En tout cas c'est vrai pour la théorie jungienne des archétypes, puisqu'il y a des gens qui utilisent ça pour faire en pratique médicale, hein, psychologique en tout cas, des analystes. Et c'est vrai pour l'homéopathie, voilà, c'est vrai pour beaucoup de néo-chamanisme, et on pourrait, je pense, trouver assez facilement beaucoup d'autres exemples. Et en plus, pour compléter, il y a une deuxième chose qui est alors là du coup un petit peu plus complexe, où ça interfère de manière moins évidente, c'est que comme la mythologie c'est un discours sur les origines essentiellement, bon alors les origines qui nous intéressent c'est essentiellement l'origine de l'homme évidemment, hein, l'origine du monde, l'origine du cosmos, ce genre de grandes question. C'est ça les mythes les plus répandus, les mythes essentiels, ceux qui sont le plus transmis et qui nous touchent le plus. Bon. Et actuellement, dans notre monde à nous, d'Europe occidentale moderne par exemple, et ben ces récits traditionnels qui répondaient à ces questions-là, disons, on les considère comme des mythes, c'est-à-dire qu'on les considère comme faux. On les considère comme des croyances, c'est-à-dire comme des choses auxquelles nous ne croyons plus. Parce que nous avons d'autres récits à la place, et les récits, c'est les récits scientifiques. C'est-à-dire que, moi j'explique comme ça, le succès médiatique de certaines sciences par rapport à d'autres. Pourquoi, quels sont les savants, reconnus institutionnellement, hein, extrêmement médiatisés? Par exemple, Hubert Reeve. Hubert Reeve, c'est pas un spécialiste du sumérien, de la grammaire du sumérien ancien, hein. Voilà, de quoi parle Hubert Reeve? Il nous parle de l'origine du monde. Bon. Yves Coppens, de quoi parle Yves Coppens? Il nous parle pas de la variation dans la forme des potriopies entre tel siècle et tel siècle. Hein. Donc, il nous parle de l'origine de l'homme. Et donc, exactement, ils prennent la place des anciens conteurs qui parlaient de ces choses et qui produisaient un récit explicatif du monde. Alors évidemment, la différence, là, c'est que c'est un récit scientifique. C'est-à-dire que, a priori, tout ou presque tout dans ces récits peut être vérifié, argumenté, contredit, falsifié, etc. On est bien d'accord là-dessus. Sauf que, du point de vue de la réception, qui peut vérifier, qui prend la peine d'abord de vérifier ce qui est dit dans ces récits? Personne, on les prend comme des belles histoires. En plus, ces gens sont souvent des très bons conteurs. Hein. C'est pas du tout indifférent au succès. Hein. Mais on vérifie pas. On se laisse un petit peu bercer par l'histoire, hein, comme on se laisse bercer par un mythe. Et pour vérifier, notamment par exemple en ce qui concerne l'astrophysique, qui peut vérifier? C'est une poignée de gens à un certain niveau. C'est d'une telle complexité que on fait confiance. Enfin, ça vient même pas à l'idée de dire on va vérifier. Ça vient à l'idée de quasi personne, tout simplement. Pareil quand on nous parle des premiers hommes, qui va dire « Attends, moi je veux quand même regarder un peu la dent là, parce que ça paraît bizarre, je vais comparer avec la dent de tel autre, tout. » Personne fait ça. Tout le monde prend l'histoire telle qu'elle est racontée. Et en fait, ces conteurs-là, ces conteurs scientifiques, je dirais, tout en étant, je n'insinue pas que ce ne seraient pas des scientifiques, hein, attention, hein, qui ne feraient pas de la science. Hein. Donc, tout en étant des scientifiques, hein, et tout en pratiquant de la science, en fait, ils tiennent la place des anciens disants de mythes. Et ces récits prennent une partie de la place des anciens mythes. Et puis, il y a une autre partie qui est prise par des vrais mythes contemporains.
Ok, oui, c'est super intéressant en tout cas cette lecture des choses. C'est vrai que même si tous les éléments qu'il présente dans un discours sont des éléments objectifs, factuels, scientifiquement valides, leur discours il est jamais exhaustif. C'est-à-dire qu'ils présentent pas tous les éléments qui existent. Ils font une sélection. Ils les présentent d'une certaine manière, et donc il y a toujours pas mal de subjectivité, même si on prend que des faits factuels en fait.
Oui. Oui. Mais du coup, moi, ce qui me frappe, c'est que c'est pas vrai pour toutes les sciences. Je parle du succès médiatique, hein, de radio, de télé ou des doubles pages dans les journaux régulièrement. Mmh. C'est toujours sur ces sujets-là. C'est toujours les sujets, des grands sujets d'origine. L'origine de l'art aussi. l'origine de l'art, pourquoi les grottes préhistoriques, ça fascine absolument les gens. Pourquoi? Parce que c'est aussi un discours sur les origines, et c'est aussi de l'ordre du mythe, parce que là, on n'en sait strictement rien de l'origine de l'art, et on n'en saura, je pense, vraiment jamais strictement rien. On peut parler, évidemment, des peintures rupestres, et moi, c'est mon métier, donc évidemment, heureusement qu'on peut dire des choses, quoi. Mais l'origine, non, jamais, jamais. Ça, faut pas, faut oublier, c'est pas possible, quoi, voilà. Mais du coup, des spécialistes qui savent très bien ce que je suis en train de dire, qui savent très bien qu'on pourra jamais retrouver l'origine, emploient quand même le terme, et parlent quand même d'origine de l'art, font des livres qui s'appellent, intitulés l'origine de l'art, etc. Pourquoi? Parce que c'est une façon de tenir la place des récits d'origine. C'est produire un récit d'origine, alors argumenté, etc., mais produire un récit d'origine qui est à proprement parler un mythe. Voilà. Ce qui explique que les trois grandes sciences qui sont hyper médiatisées, ce sont justement celles qui parlent de l'origine de l'homme, celles qui parlent de l'origine de l'art et celles qui parlent de l'origine du monde. Voilà. Et après, si on est scientifique tout aussi bon, extrêmement bon parleur, etc., mais qu'on est spécialiste, voilà, on passe sa vie à savoir si le chinois ancien était monosyllabique ou bisyllabique, on n'a aucune chance. Tout en étant excellent, et c'est une question hyper intéressante. Moi, je trouve ça très intéressant. Voilà. Ou si on est étymologiste et que voilà, plein de sciences en fait n'ont aucune chance d'avoir cet écho médiatique là parce que elles ne tiennent pas la place cette ancienne place que tenaient les mythes.
Oui, ça me parle beaucoup. Ça me fait penser à un exemple. Peut-être un peu plus mineur, mais quand même assez important en France, c'est l'exemple de la psychanalyse. On peut toujours observer cette sorte d'omniprésence dans les médias, alors que beaucoup de psychanalystes médiatisés sont des gens qui n'ont pas de diplôme, qui racontent parfois de grosses bêtises sur la psychologie ou sur le fonctionnement humain, et ils répondent exactement à cette caractéristique, c'est-à-dire qu'au lieu d'expliquer le comportement des gens en termes de mécanismes d'apprentissage, de biais cognitifs, etc. Ils vont parler de l'origine des choses, quoi. C'est la personne a un comportement parce que il y a une origine qui est le complexe d'Œdipe ou la relation qu'elle a eue avec son père ou son homosexualité refoulée. C'est vraiment cette notion d'origine qui est tout le temps mise en avant aussi, en fait.
Oui. Alors, je précise que pour ce qui me concerne, moi, j'ajoute volontiers la psychanalyse dans la série des mythes modernes. Hein. Pour moi, Freud a d'une part utilisé largement des mythes. On a tous en mémoire en plus la photo de son bureau où on voit les petites statuettes. Grec, etc. Ça m'intéressait beaucoup. Il connaissait pas mal de mythes grecs en particulier, malheureusement pas beaucoup d'autres que grecs. Et en fait, il les a utilisés pour fabriquer un mythe moderne. Je pense que c'est un des très grands créateurs de mythes contemporains. Voilà. Il y a quelques-uns comme ça. Mircea Eliade pour l'histoire des religions, c'est également Jung aussi. Ce sont des gens qui m'intéressent beaucoup au titre non pas de scientifiques, mais au titre de créateurs de mythes contemporains, puisque les théories qu'ils ont élaborées, grosso modo, pour être gentil, au moins pour une bonne part, sont réfutées. Et continuent néanmoins de fonctionner. On est exactement là dans la situation du mythe. C'est-à-dire de dire, quand on parle des Grecs anciens, comment se fait-il que des gens rationnels par ailleurs, intelligents, cultivés, continuent à croire des choses dont on a montré qu'elles étaient fausses? On est exactement dans la situation du mythe. Et du coup, je crois, une fois plus, que pour en sortir, c'est pas... Alors, moi, je fais partie des gens qui essayent de démontrer, hein, notamment pour l'archéologie, de démonter, de débunker, comme on dit, des mythes sur l'archéologie. Mais je suis bien conscient que c'est très insuffisant et que ça ne peut jamais convaincre les gens qui sont persuadés de la vérité des mythes qu'ils énoncent. Ça peut convaincre des gens qui sont entre deux, qui se demandent, qui ont un petit doute. Là, ça peut marcher, je pense. Mais là, des gens qui sont parfaitement convaincus, voilà, qu'il y a des pyramides sous la mer, par exemple, on peut leur démontrer tout ce qu'on veut, ils continuent de le croire, quoi, parce que c'est de l'ordre des mythes.
Ça, ouais.
Pas parce que c'est irrationnel, mais parce que c'est de l'ordre du mythe.
Ok, super. Donc c'était vraiment super intéressant. Est-ce que tu aurais un mot de la fin ou une conclusion pour les auditeurs par rapport à tout ça?
Un mot de la fin, ben je reprendrai un petit mot que j'ai dit tout à l'heure, parce que ça me semble très important. Je crois que un des mythes contemporains, et peut-être le plus embêtant des mythes contemporains, c'est celui de croire qu'on a mis fin aux mythes, quoi, que nous serions, nous, débarrassés des mythes dans lesquels d'autres seraient encore englués. Ça, c'est une façon de voir qu'il faut vraiment essayer d'oublier, quoi.
Ok. Sur cette conclusion pleine de sagesse, je te remercie en tout cas d'être venu sur le balado pour cette interview sur les mythes. Je pense que ça intéressera pas mal de nos auditeurs.
Ben merci, c'est moi qui suis très heureux d'avoir participé. Merci beaucoup.
De rien. À bientôt alors, Jean-Luc.
Au revoir.